Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Voici l'histoire de celui qu'on a appelé Pierrot le Fou, Pierre Bodin. Pendant toute sa vie, cet homme a berné des dizaines et des dizaines de psychiatres. Ils l'ont dit fou, et puis non, et puis finalement oui, et puis finalement non. Il n'est pas fou, mais c'est un psychopathe d'une perversité terrible, qui a commencé comme braqueur et finit comme tueur. Pour le débrief tout à l'heure, j'ai invité l'avocat de la famille de l'une de ses victimes, maître Thierry Moser, de Mulhouse. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation signée Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
C'était une jolie petite fille blonde, aux cheveux courts de 11 ans, Jeanne-Marie Kegelin. Le vendredi 18 juin 2004, à Rhino, en Alsace, dans la matinée, elle est allée se promener en vélo. Il faisait beau et chaud, le temps idéal. À midi, sa mère a battu le rappel pour le déjeuner.
À table !
Avec 8 enfants, c'est toujours compliqué de rassembler tout le monde.
Et Jeanne-Marie, elle est où ? C'est pas, elle est partie faire du vélo, elle n'est pas rentrée. Si tu veux, je peux essayer d'aller la chercher. Elle doit être du côté du tennis, elle y va toujours.
Le grand frère y est allé, et effectivement, près du tennis, il a trouvé son petit vélo rose, abandonné. Mais il n'a pas trouvé sa sœur. Il l'a appelée.
Jeanne-Marie ! Jeanne-Marie !
Elle n'a pas répondu. Alors à 14h, la mère a averti les gendarmes. Ils ont pris ça très au sérieux, tout de suite. Dans d'autres histoires, il arrive que les gendarmes traînent des pieds, pas là. Ils ont envoyé un hélicoptère pour la chercher d'en haut et organisé des battues avec les gens du village pour la chercher d'en bas. Ils ont envoyé des chiens renifler son odeur à partir de l'endroit où on a retrouvé le vélo. Ils sont allés jusqu'au bord de la route et ils se sont arrêtés net. Et tout ça, c'était avant-hier. Et on est toujours sans nouvelles de Jeanne-Marie. Et puis, 3 jours après la disparition de Jeanne-Marie, dans le village d'à côté, des enfants se mettent à raconter une drôle d'histoire.
On a vu un drôle de truc dans la maison des Vanier. Si ? Si ? Regardez par-dessus la clôture. Ils avaient mis une petite fille dans le coffre d'une voiture. Et il y avait plein de gens autour qui regardaient.
Ils racontent ça à leurs parents, qui s'empressent d'aller le répéter aux gendarmes. Et là, il faut que je vous explique. Les Vanier, c'est pas un nom de famille, hein. Les Vanier, c'est comme ça qu'on appelle les gitans, en Alsace. Ce sont ceux qui font des paniers, quoi, de la vannerie. Autant vous dire qu'ils n'ont pas la cote dans le village. Ni une, ni deux. Les gendarmes arrêtent les 6 Vanier qui vivent dans la maison désignée par les enfants. Garde à vue. Les gendarmes les ont-ils secoués un par un ? C'est possible. Toujours est-il qu'assez vite, il y en a un qui craque. Le plus jeune. Dont je dois vous dire qu'il est aussi légèrement débile.
C'est mon grand frère Georges. Il a renversé la petite. Bah, c'était un accident, hein. On était 3 dans la voiture, du coup, on a ramassé le corps et... Bon, on l'a mis dans le coffre.
Ah ! C'était un accident. Et il est où, le corps, maintenant ?
Oh, ben d'abord, on l'a ramené chez nous. On l'a enterré. Après qu'on l'a jeté dans la rivière, et puis... On est allé le reprendre, et puis... On l'a jeté dans le Rhin.
Donc on ne retrouvera pas le corps tout de suite. Alors le frère aîné, Georges, celui qui est censé avoir eu l'accident, qu'est-ce qu'il en dit ? Il est dans le bureau d'à côté.
Bon, tout ça, c'est que de conneries, hein ?
Ce qui voudrait dire que le petit frère aurait inventé toute cette histoire. C'est possible, hein ? Parce que les gendarmes ont examiné à la loupe toutes les voitures du clan. Pas une, aucune, ne porte de marque d'un choc avec un vélo. On en est là quand le 25 juin, une semaine plus tard, une autre petite fille disparaît, à 50 km de là, à Schirmeck. Julie Charge, 14 ans. Elle aussi part faire du vélo en début d'après-midi avec sa copine Maud. Et quand la fin de l'après-midi arrive, Maud est rentrée, mais pas Julie. Vers 19h, la mère de Julie appelle Maud sur son portable.
« Maud, t'es toujours avec Julie? Tu peux lui dire qu'il est temps qu'elle rentre ?»«
Mais non, je suis plus avec elle. On s'est quitté vers 5h. »
La mère refait le chemin en sondant les fossés du regard. Et puis elle prévient les gendarmes, les mêmes que ceux qui enquêtent sur la disparition de Jeanne-Marie. Et tout le quartier se mobilise et on fouille, on l'appelle.
« Julie ! Julie ! »
On se dit que c'est peut-être une fugue, 14 ans. Mais elle n'a rien emporté, ni papier, ni argent, ni vêtements. Et les semaines passent. Une, deux, trois, quatre, cinq semaines. Jusqu'au 28 juillet, date à laquelle on retrouve le vélo de Julie. Dans la forêt, dans un ruisseau, on ne voit que le guidon qui dépasse. Mais c'est bien son vélo. Ça n'est donc pas une fugue. Ce vélo, on l'a caché là. On l'a enlevé, comme Jeanne-Marie. Et maintenant, les gendarmes font le lien entre les deux histoires. 4 jours après la disparition de Julie, le 29 juin, des enfants se promènent au bord d'un ruisseau à Valve, à 20 km de Rhino.
Et ils regardent l'eau. On dirait une poupée, non?
Ça n'est pas une poupée. C'est la pauvre Jeanne-Marie. Et d'entrée, il n'y a aucun doute, hein, ses petites chaussures bateau bleues, et surtout son Bermuda avec une étiquette à son nom. Un mois et demi plus tard, évidemment, le corps est décomposé, mais on voit tout de suite qu'elle a été étranglée, et sans doute aussi violée, avec d'étranges traces de couteau autour de son sexe. Est-ce que ça peut être les Vanniers ? Valve, l'endroit où on a découvert le corps, est à 30 km de l'endroit où le jeune a dit « on s'est débarrassé du cadavre ». Et par ailleurs, on peut penser que ce corps n'est pas là depuis la disparition de Jeanne-Marie. Non, c'est un endroit très passant, on l'aurait vu. Le petit corps de Jeanne-Marie a été déposé là récemment, hier peut-être. Or les Vanniers sont en tôle depuis une semaine. Le gamin du clan a raconté n'importe quoi. C'est une fausse piste, sur laquelle il était évidemment facile de s'engouffrer. Des Vanniers, pensez-vous. Vous connaissez la blague? Si vous ne savez pas pourquoi vous les arrêtez, eux, ils savent toujours. C'est à ce moment-là que les gendarmes font le lien avec une troisième histoire, intervenue entre la disparition de Jeanne-Marie et celle de Julie. Une histoire que jusque-là, ils ne pouvaient pas relier aux autres à cause de l'âge de la victime. Edwige Vallée, 38 ans. On l'a retrouvée nue dans un ruisseau à Indisheim, dans le même coin. Elle a été étranglée. Et surtout, elle avait des blessures au niveau du sexe, comme des coups de couteau. Comme ceux qu'on a pu constater sur le corps de Jeanne-Marie. Les mêmes mutilations barbares. On aurait donc affaire à un même tueur qui tue indifféremment des enfants et des femmes adultes. Un tueur avec une manie très caractéristique des grands pervers. Est-ce que Julie a subi le même sort? Pour l'instant, Julie Charge est introuvable. Mais on a peut-être une piste. Un témoin l'a vu le jour de sa disparition avec son vélo sur la route de Schirmeck. Vous voyez où qu'il y a un hameau, là? Sur la départementale 204. Ah bon, elle était là, elle parlait avec un type. Il avait une voiture blanche. La marque, vous vous souvenez de la marque?
Ouais, je dirais une Escort. Une Ford Escort blanche.
Une Ford Escort blanche? Eh ben ça alors. Depuis quelque temps, justement, les gendarmes ont à l'œil un type louche qui vient de sortir de prison avec un casier long comme le bras qui a justement une Ford escorte blanche. Pierre Baudin.
Tu vois pas que ça soit lui? Ça pourrait, hein?
Et donc il l'interpelle. Et il l'interroge. Et il n'en tire rien. Et donc il le relâche. En se disant, toi mon coco, à partir de maintenant, on t'a à l'œil. D'autant que près du corps de Jeanne-Marie, on a trouvé les débris d'un clignotant. C'est un clignotant arrière de Ford Escort. Alors dès sa sortie de garde à vue, il le filoche, ce Pierre Baudin, discretos, jusqu'à chez lui, une caravane sur le terrain d'un ferrailleur à Bourgheim, toujours dans le même coin. Et c'est à ce moment-là que tombent les analyses effectuées sur des taches de sang retrouvées sur le vélo de Julie. Le labo a dégagé un ADN qu'il a passé au fichier des empreintes génétiques. C'est lui ! C'est Pierre Baudin ! Connu jusque-là comme braqueur en série, sorti de prison il y a 4 mois à peine. Actuellement en liberté conditionnelle sous contrôle judiciaire. Le lendemain matin, les gendarmes vont l'arrêter et ils le traînent en garde à vue. Mais en garde à vue, Baudin nie.
Oh, je sais pas ce que je fais là. Moi, j'ai rien à voir avec cette histoire.
Pourtant, son ADN a bien été retrouvé sur le vélo de Julie et Julie a disparu. Ça suffit pour le déférer chez le juge d'instruction et ça suffit au juge pour le mettre en examen et le coller en prison. Et là, on découvre l'animal, son passé. Pierre Baudin a 57 ans, c'est un vanier, lui aussi. Mais pas un vanier qui tresse des paniers. Un voleur, un braqueur qui a quasiment passé toute sa vie en prison. Et quand il n'était pas en prison, il était en hôpital psychiatrique. Et en feuilletant son dossier, on découvre des expertises psychiatriques réalisées à l'époque, et notamment une réalisée en 1989 après son arrestation pour 16 braquages. Il faut absolument que je vous raconte cet épisode. En 1989, donc, Pierre Baudin est expertisé par le psychiatre Henri Brunner. Il vient le voir à la prison et il le trouve très agité et incohérent.
Oh, je suis pas fou, hein? Je suis pas fou? Oh, j'ai volé, on m'a dit que j'ai volé. Oh. Mais c'était pour m'acheter un hélicoptère.
Verdict du docteur Brunner. Pierre Baudin est psychotique, possiblement schizophrène. Or, on ne juge pas les psychotiques, la France se fait un honneur de ne pas juger les fous. Et donc Pierre Baudin est interné. Et une fois hospitalisé, il plonge dans un état régressif complet. Il ne marche plus, il lui faut un fauteuil roulant, il ne peut plus pisser lui-même, ni déféquer. C'est un légume intégral. Tellement légume que le 11 décembre 1992, il se fait la malle par la fenêtre du réfectoire. Il a perné tout le monde. Son état végétatif était un simulacre. Le même jour, Baudin, en cavale, attaque un automobiliste armé d'un pistolet à grenaille. Et il lui balance 2 décharges de grenaille dans le visage. Le lendemain, il braque une banque à Heidesheim.
Personne ne bouge!
Il prend un salarié en otage et sous la menace, il se fait remettre 20 000 francs. Et il prend la fuite. Le même jour, il s'achète un fusil de chasse dans une armurerie et 5 boîtes de cartouches. La nuit suivante, les flics le repèrent à Colmar. Une course-poursuite s'engage. Les policiers se mettent à tirer. Baudin réplique au fusil à pompe. Il vise un policier à la tête. Touché ! L'officier s'en sortira par miracle. Et il s'échappe à nouveau. Le lendemain, il nous donne un signe qu'il est aussi un prédateur sexuel. Il enlève une femme, il la viole plusieurs fois et il la relâche. Et juste après, il tombe sur un barrage. Il le force. Nouvelle fusillade. Et Baudin parvient à s'enfuir dans un bois. Les gendarmes pénètrent dans le bois par dizaines, avec des chiens, des motos et au-dessus un hélicoptère. Et ils le coincent. Fin de la cavale. Vous voyez à quel genre de zozo nous avons affaire? Alors, il est fou ou pas? Il est psychotique, schizophrène ou pas? Mérite-t-il le surnom de Pierrot le Fou? Dans les années qui suivent, il y a débat. L'une des stars de l'expertise psychiatrique de l'époque, le docteur Bornstein, le rencontre juste après ses 3 jours de cavale. Alors est-il psychotique, docteur? Eh bien non. D'après Bornstein, non. Il est psychopathe, mais rien de plus. C'est un déséquilibré mental, mais ça n'entre pas dans le champ des troubles psychiatriques qui dispensent de la cour d'assises. On peut le juger. Et donc on le juge. En 1995, Pierre Baudin comparaît devant la cour d'assises de Colmar pour ses hold-up. Il arrive tout tremblant dans le box des accusés, la bouche ouverte, la démarche branlante. Quand on lui pose des questions, il dit n'importe quoi.
Faut qu'on me rende la mobilette comme on voulait, hein.
Les experts psychiatres pensent qu'il simule. On raconte une scène étonnante. Un jour, il a mangé ses excréments. Il serait donc prêt à tout pour montrer qu'il est fou. Et à la fin, il prend 30 ans pour les 16 hold-up. Mais après miracle, sur une faute de procédure, il obtient la cassation. Nouveau procès en 1996 à Strasbourg. Et là, changement total d'attitude. Il est frais comme un gardon, il ne fait plus semblant d'être fou, il s'excuse même, c'est un autre homme. Et du coup, il prend un peu moins que la première fois. 28 ans de prison. Donc en principe, on en est débarrassé jusqu'en 2012. Je dis en principe parce que vous savez, vous, que sans doute, il a replongé en 2004. Julie, Jeanne-Marie, Edwige. Comment s'est-il trouvé dehors en 2004, 8 ans avant l'échéance? Eh bien d'abord, son avocat a fait du zèle. Il a repéré une toute petite faute de procédure qui a ramené la peine de 28 ans à 20 ans. Et puis après, ma foi, Baudin s'est plutôt bien comporté en prison. Il a donc bénéficié de remises de peine. 20 ans sont devenus 17 ans. Et juste après, une grâce présidentielle, générale et habituelle, traditionnelle, a ramené la peine de 17 à 14 ans. Et à la fin, en 2004, dernier coup de pouce, on lui a fait encore un petit cadeau, une année. Et on l'a libéré au bout de 13 ans. 13 ans au lieu de 28. Voilà. Voilà qui est et d'où vient le zigoto qui a sans doute tué, dès sa sortie de prison, en 2004. Jeanne-Marie, Edwige et Julie. On retrouve le corps de Julie Charche, le 3 juillet 2004, dans un petit ruisseau. Il porte les mêmes blessures, les mêmes mutilations au niveau du sexe que les deux autres. C'est très troublant, ça, ce petit rituel macabre. Et ça n'est pas le seul point entre les 3 affaires. Vous noterez que les 3 corps ont été retrouvés dans l'eau. Mais il y a encore plus troublant. Prenez une carte du coin et collez une punaise sur chaque endroit où on a retrouvé les corps. 1, 2, 3 punaises. Eh bien, vous noterez que les lieux de découverte des corps sont à égale distance de la caravane de Pierre Baudin. Dingo! Dingo! On finit par trouver du sang de Jeanne-Marie dans sa Ford Escort, et aussi un tout petit poil qui appartient à Edwige. Et comme en fouillant le terrain où il vivait, on tombe sur des couteaux tachés de sang. Alors il n'y a plus de doute. Pierre Bodin, quelques semaines après sa sortie de prison, a tué 3 fois en une semaine. Les psychiatres n'ayant pas réussi à se mettre d'accord, on va donc le juger pour les 3 meurtres de 2004. Son procès s'ouvre le 11 avril 2007 devant la cour d'assises de Strasbourg. Et dans le box, il n'est pas seul, le juge d'instruction n'est pas arrivé à dédouaner totalement les vanniers de Rino dans le meurtre de Jeanne-Marie. Alors il a renvoyé tout le monde devant la cour d'assises, avec Bodin. 16 personnes. Quelle galère! Vous vous rendez compte, à chaque fois, il faut les interroger un par un. Et comme ils sont tous rongés par l'alcool et tous à moitié neuneux, ça prend un temps fou.
Oh, moi, je l'ai jamais vu, ce Bodin, là. Moi, je l'ai jamais vu, et la petite Jeanne-Marie, là, non plus, hein.
On perd notre temps. Il n'y était pas. Bodin était seul. Alors concentrons-nous sur lui. Lui qui est assis là, dans le box, avec ses cheveux longs filasses, et qui met un jour une chemise blanche, et le lendemain une rose, et le surlendemain à nouveau la blanche. Il n'a que 2 chemises. D'entrée, il nie. Il remet au président un document d'une 10aine de pages intitulé « 30 alibis ». C'est la preuve, pense-t-il, qu'il n'a commis aucun des meurtres. Et c'est assez vain, hein, parce que dans le dossier, on a des preuves ADN, en veux-tu, en voilà. Et on a son téléphone qui atteste que le jour de l'enlèvement de Jeanne-Marie, il était à Rino. Il perd son temps. Mais jour après jour, il ne lâche rien. Il refuse de détailler son emploi du temps, il n'a commis aucun des crimes. C'est un complot, c'est une machination.
Ouais, c'est le gendarme là qu'ils ont mis mon ADN sur le vélo de la petite Julie là. C'est le gendarme qui a fait ça.
Et on en vient bien sûr à la question, l'éternelle question. Les experts psychiatres se relaient à la barre. Est-il fou? Ils ne sont toujours pas d'accord. Mais ce qui ressort en gros, c'est que c'est un manipulateur qui joue au fou sans être fou. À la fin, l'avocat général se lève.
Je vous demande de condamner Bodin à une peine de perpétuité incompressible, de manière à ce qu'il ne bénéficie d'aucun aménagement de peine.
L'avocat de Bodin, enfermé par les dénégations de son client, ne peut rien plaider d'autre que le complot de la gendarmerie. C'est assez vain. Le délibéré dure 24 heures, ça c'est très rare. Et la cour condamne Pierre Bodin à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine incompressible de 30 ans. C'est le max. Il fait appel. Un nouveau procès est organisé en septembre 2008 à Colmar. Il est toujours dans le déni. Et sa condamnation à la perpétuité dite réelle est confirmée. À ce moment-là, il a 61 ans. Il part pour 30 ans minimum. Il mourra en prison. Voilà donc pour l'histoire de Pierre Bodin, qu'on appelle sans doute à tort Pierrot le Fou. Je ne sais pas si c'est votre avis, Maître Moser, vous étiez dans ce dossier l'avocat de la famille de Julie Charge. C'est un surnom usurpé.
Absolument, absolument, il ne le mérite pas, il n'est pas approprié ce surnom. Moi je dirais plutôt le roublard, le manipulateur, le faussaire, le malsain, moi je l'appellerais comme ça.
En vérité, vous vous êtes croisé combien de fois devant la cour d'assises ?
Quatre fois, j'ai beaucoup fréquenté professionnellement, si je puis dire, cet individu, j'ai plaidé 4 fois contre ce gaillard-là. J'ai plaidé donc deux procès qui suivaient sa cavale de 1992 que vous avez raconté, et j'ai plaidé deux fois contre Bodin à l'occasion donc des crimes abominables du printemps 2004. Et je peux vous raconter en deux mots les différents procès si vous le souhaitez.
Pas la totalité, mais ça m'intéresse de savoir si vous avez senti lors du procès de la cavale sa dangerosité, parce qu'à ce moment-là,
oui,
c'est un braqueur. Il a quand même tiré sur un flic au fusil à pompe. Il a failli le tuer, mais il n'a jamais commis de meurtre de caractère sexuel.
Oui, un premier procès, effectivement, Colmar, il joue au fou, il est comme une légume, il veut qu'on s'apitoie sur lui, enfin, il nous prend vraiment pour des imbéciles. Moi, j'ai plaidé que c'était un simulateur absolument remarquable. Les jurés, donc, ont suivi, ont condamné, vous l'avez dit, excellemment. Ensuite, nous avons le procès numéro 2 suite à un pourvoi en cassation malheureusement réussi de Bodin. Et alors, lors de ce deuxième procès à Strasbourg 1996, M. Bodin n'est plus gaga, mais M. Bodin est un saint homme. Il a rencontré, dit-il, à la prison Jésus-Christ, la Sainte Vierge. Il est repenti, il est bourré de remords. Il veut adopter un comportement absolument parfait dans l'existence et il voudrait qu'on l'apitoie sur ses belles paroles. Donc vraiment, il nous prend une fois de plus pour des imbéciles parfaits.
Parlons de la peine à laquelle il est condamné à l'issue du dernier procès, c'est-à-dire la perpétuité dite réelle. C'est d'ailleurs la première fois qu'on condamne un homme à cette peine qui vient d'être instaurée en France sous Jacques Chirac quelques années plus tôt. Alors, il faut expliquer que c'est donc une peine de perpétuité incompressible, mais il y a quand même une possibilité de sortir au bout de 30 ans.
C'est-à-dire qu'après 30 ans, il faut faire au moins 30 ans, et à partir de 30 ans, on remet le compteur à zéro, et là, éventuellement, je dis bien éventuellement, on peut bénéficier d'un aménagement de peine. Donc c'est bien la première fois que ça a été utilisé en France. J'ai revu cette situation quelque temps après, lors du procès que j'ai plaidé contre Fourniret, si je me souviens bien, oui, Fourniret, à Charleville-Mézières. Donc je reviens à ce procès de Strasbourg de 2007, 3 mois de procès, les Vanier dans le box plus Bodin. Vanier acquitté, vous l'avez dit parfaitement bien. Et moi, ce que je retiens de ce procès, ce sont deux choses qui m'ont frappé. Première chose, c'était la violence absolument insoutenable des débats. Bodin, visiblement, me hait, ce dont d'ailleurs ça ne me dérange absolument pas, bien au contraire. Et il me considère comme l'un des auteurs du complot dirigé contre lui. Alors les méchants, ce sont les gendarmes, les méchants journalistes et moi-même. Vous voyez, je suis en bonne compagnie, ça me va très bien. Bon. Donc des débats très rudes, il veut mener le procès, il veut présider le procès. Et c'est absolument incroyable. Et au moment d'ailleurs où je vais plaider, il va se boucher les oreilles. Moi, je vais m'approcher de lui en parlant encore plus fort. Il se met à hurler. Il est expulsé de la salle. Enfin, c'est assez pittoresque. Deuxième souvenir, moi, j'ai plaidé beaucoup sur sa personnalité. J'ai fait valoir que ce n'était pas seulement le braqueur repenti qu'il disait être, mais c'était essentiellement le délinquant sexuel, le prédateur sexuel, le pédophile qui s'en prend à des petites jeunes filles, des petites gamines, 10 ans, 11 ans, 12 ans, ou que sais-je, ou 14 ans. Voilà ce que j'ai plaidé. Et à ce moment-là, ça le rendait fou furieux. Il hurlait. Et donc, comme dit, il a été expulsé de la salle suite à son comportement absolument inouï. Bon, ça c'est le premier procès, maintenant j'ai vécu le deuxième, que je peux aussi vous relater en trois mots.
Où il a complètement changé de registre, mais où au final on ne le croit pas plus, même si...
Alors, deuxième procès, il
est plus normal, quoi, plus équilibré, plus...
Oui, alors deuxième procès, il a d'ailleurs changé d'avocat, et alors cette fois-ci, il veut jouer à la rationalité. Il veut faire une meilleure impression, il veut présenter des arguments soi-disant rationnels, il veut donc effectivement raisonner de façon absolument artificielle et nous présenter des alibis ou que sais-je. Ça ne marche pas davantage, il est à nouveau condamné à la même peine. Il fait un pourvoi en cassation, ce pourvoi en cassation échoue fort heureusement, et alors comme Bodin est un procédurier infatigable, le pourvoi en cassation ayant échoué, il fait une action devant
la Cour européenne des droits de l'homme.
Européenne des droits
de l'homme. Mais c'est lui qui est procédurier ou ce sont ses avocats qui font un zèle légèrement maladroit quand même, parce que
je pense que l'avocat encourage Bodin et vice versa. Et alors Bodin est un type, je crois, très exigeant avec ses avocats. Il les tue à la tâche et puis mes confrères, malheureusement, veulent bien être maltraités, ce que je déplore. Enfin, ça, c'est un autre problème. Bon, bref, il fait une action devant la juridiction supranationale Strasbourg, la Cour européenne des droits de l'homme. Il échoue. Et alors, il pourrait s'arrêter. Ben non. Il fait encore un pourvoi en révision.
Mais il a tenté de faire révision, ce qui était fou.
Oui, enfin, oui. Alors
que
là,
il vient se soit lancé là-dedans, c'est faire perdre du temps à la justice.
Mais c'est se foutre du monde, et alors, je veux pas être méchant avec mes confrères, mais enfin, certains avocats font des choses tout à fait extravagantes, et moi, je le déplore. Effectivement, il fait un pouvoir en révision qui est bâti sur du sable. Ça s'est plaidé récemment, j'y suis allé à Paris, devant des magistrats de la Cour de cassation, et là, il vient raconter des imbécilités, et son pouvoir en révision a été, évidemment, rejeté. Bon. Mais moi, je dis que tout cela, ça fait des souffrances absolument innombrables et répétées vis-à-vis des victimes, des familles des victimes. C'est intolérable et je suis vraiment choqué par le comportement de cet individu. Alors, il continue d'ailleurs à me choyer, je le dis ironiquement, bien entendu, puisqu'il m'envoie régulièrement des courriers plutôt menaçants. Je sens sa haine à mon égard, mais ça, je m'en fiche royalement. Et s'il m'entend, eh bien, je tiens à le lui faire savoir, je m'en fiche totalement de ces messages stupides.
Revenons deux secondes au quantum de la peine. C'est donc la première fois qu'on va condamner un homme à la perpétuité réelle dans ce pays. Pour le coup, vous trouvez que c'est adapté ?
Ah, moi, je trouve que c'est très bien. D'ailleurs, vous avez tout à l'heure relaté excellemment le cheminement, donc, procédural suite à la décision de 1994. Donc, le pourvoi en cassation qui aboutit, ensuite les remises de peine, et patati et patata. Moi, je trouve que c'est choquant. Les 28 ans qui deviennent, je crois, 12 ou 13 ans, mais c'est absolument inouï, c'est absolument choquant. Et je suis tout à fait satisfait de cette loi qui a durci la répression pour des criminels aussi chevronné et dangereux que Bodin. Je pense qu'il faut respecter les intérêts des familles, je pense qu'il faut protéger efficacement la société.
Alors, parlons de sa folie. Il y a eu toute sa carrière, sa terrible carrière, un débat entre psychiatres sur son cas. Il n'est pas le premier au sujet duquel on débat entre psychiatres. Vous n'allez tout de même pas me dire, vous avez déjà dit un mot là-dessus tout à l'heure, mais que Bodin est un type normal.
Il n'est pas normal, il a effectivement des perturbations psychologiques, ça c'est évident, mais enfin il a su effectivement induire en erreur gravement un psychiatre strasbourgeois dont vous avez cité le nom, et il a trompé ce spécialiste de la médecine mentale, et je le déplore. Les autres psychiatres ont été beaucoup plus clairvoyants en disant que certes cet individu présente des perturbations, il n'est pas comme vous et moi, mais il est dangereux et il faut l'avoir très sérieusement à l'œil. Voilà en gros ce qu'on... Et on peut le juger, et on doit le juger.
Maître Moser, vous êtes un vieux de la vieille de la cour d'assises. Qu'est-ce que vous pensez, en général, des expertises psychiatriques ?
Voilà, j'ai pas la compétence d'un psychiatre, bien entendu, mais enfin, je ferai deux observations. Première observation, pour déclarer un bonhomme non responsable au plan pénal, il faut quand même, à mon avis, du solide et non pas des éléments incertains comme l'a admis ce psychiatre strasbourgeois. Donc, il faut du solide. Il faut du solide et je pense que cette condition n'a pas été remplie. Bon, ça c'est ma première observation. Deuxième observation, à partir du moment où un individu est déclaré irresponsable, ne pouvant donc être condamné pénalement, eh bien il faut au minimum que cette situation donne lieu à des mesures de sûreté. Il faut que le gaillard déclaré irresponsable soit suivi de façon étroite par les autorités compétentes pour l'empêcher de récidiver, de faire à nouveau du mal, mais il n'est pas question de le remettre bien gentiment dans la nature en disant « mon petit bonhomme, maintenant tu fais ce que tu veux ». Ça c'est criminel et on n'a pas le droit de faire des choses comme ça, et on a fait ça pendant certaines années, pendant un certain nombre d'années.
Mais j'entends que vous dites qu'il ne faut pas juger les fous.
Ah oui, ça oui, absolument. On peut pas juger des fous, parce que pour être déclaré responsable d'une infraction, il faut avoir eu une certaine lucidité, la conscience de commettre l'infraction, la conscience de transgresser la loi. Bon, je dis que Bodin avait parfaitement cette conscience et il fallait le juger et le condamner, et c'est très bien. Mais si quelqu'un est démuni de cette lucidité, à ce moment-là, on ne peut pas le condamner pénalement. Ça ne veut pas dire qu'on lui fiche une paire royale, ça veut dire qu'on va lui imposer des restrictions à sa liberté, des mesures de contrôle, ce qu'on appelle des mesures de sûreté, je l'ai dit à l'instant, mais pas question de le laisser dans la nature en train de gambader pour réitérer des infractions gravissimes.
Pour revenir donc à Bodin, vous êtes certain, vous, que c'est un roublard qui a joué au fou, ce qui est étonnant parce qu'il n'est pas d'une intelligence suprême, et néanmoins, il sait jouer au fou au point de berner, pas un, hein, plusieurs psychiatres. Il y a eu débat, il y a eu dans certaines affaires, débat entre psychiatres, l'un disait il est schizophrène et l'autre pas.
Ben Christophe, j'ai vécu donc 4 procès contre cet individu. Premier procès, il se présente comme un complet givré. Deuxième procès, il se présente comme un type bien normal, mais repenti, qui aime Jésus-Christ, la Sainte Vierge, etc., et qui veut bien se comporter. Troisième procès, il se présente comme un type qui veut raisonner, qui est innocent, qui veut discuter des charges pied à pied, etc. Donc, un type intelligent, quoi, capable de lire un dossier et de discuter un dossier. Quatrième procès, Kif-Kif Bourricot, il se présente de la même façon. Donc, il a quand même une capacité, un registre de comportement face à la justice qui est absolument sidérant. Et alors, tiens, je vais vous raconter une anecdote, c'est qu'à un moment donné, je me suis fichu de lui lors du procès, je crois que c'était le dernier procès à Colmar, où je lui ai dit, voilà, je vous présente mes excuses, j'ai sous-estimé vos capacités criminelles, j'ai pas réalisé que vous étiez aussi doué au plan criminel. Et alors, au départ, il n'a pas compris l'ironie que je déployais, il a même bredouillé un merci, et lorsqu'il a compris que je me fichais de lui, là, il est devenu absolument fou furieux. Voilà.
Alors, il y a quand même quelque chose dans cette histoire sur laquelle j'ai pas pu aller tellement plus loin parce que c'est dit comme ça dans l'enquête, mais personne n'a l'air de s'y être attardé. Il y a ces rituels, il y a ces marques qu'il fait autour du sexe de chacune de ces trois victimes qu'il tue, je le rappelle, à quelques jours d'intervalle les unes des autres. Il y a le fait qu'on retrouve les trois corps immergés dans l'eau à chaque fois. Et il y a le fait encore plus troublant que le lieu de découverte de ces trois corps se trouve à égale distance, au kilomètre près, de la caravane où il vit. Ça suscite quoi chez vous, ça ?
Eh bien, c'est très simple. En ce qui concerne les mutilations, donc des parties sexuelles, ça a été fait pour empêcher les investigations expertales. Et moi, je suis convaincu que ces malheureuses ont été violées. Et
on l'a pas prouvé, les viols.
Non, je suis convaincu du fait que, mais ça n'a pas pu être démontré par les experts médecins légistes en raison notamment des mutilations de la région sexuelle.
Donc c'était pensé pour gêner les experts.
Mais évidemment, mais bien sûr, pour les tenir en échec. Et le fait de placer les corps de ces malheureuses dans l'eau, c'est fait exprès parce que notre grand ami Baudin, que nous aimons beaucoup, je le dis ironiquement, notre Baudin, eh ben, il sait parfaitement que l'eau peut altérer donc l'ADN et peut tenir en échec également les investigations expertales.
Et le fait que les corps soient à égale distance de sa caravane, vous voyez ce que ça suscite comme pensée, c'est-à-dire que c'est la caractéristique des tueurs en série, ça.
Oui, je partage votre avis.
Des manies non rationnelles, parce que ça n'est pas rationnel. Oui. On peut en enterrer une à 5 km et l'autre à 2, ça ne change rien. Lui, il les met toutes à égale distance.
Ça ne m'étonne absolument pas. Vous savez, ce que je veux aussi dire, on ne l'a pas dit dans cette émission, mais alors Baudin, c'est un type qui était absolument obsédé par la question de la virginité, n'est-ce pas ? Il voulait absolument des petites victimes vierges, des petites jeunes filles, et cette obsession de la virginité, j'ai retrouvé ça chez Fourniret, lorsque j'ai plaidé contre Fourniret à Charleville-Mézières. Alors ça, c'est aussi très, très troublant, ça m'a laissé, méditatif, et je voudrais dire que c'est un dénominateur commun chez ces deux criminels épouvantables que sont Baudin et Fourniret.
Donc pour vous, on a affaire à un tueur en série, au sens américain.
Ah ben, indiscutable. Ah, c'est un tueur en série responsable qui doit être condamné, on l'a condamné, j'en suis fort aise, et donc je veux espérer, c'est un peu sévère ce que je vais dire, mais je veux penser que ce monsieur va terminer son existence dans l'établissement carcéral. Je dis clairement, même si ça peut déplaire à certains bons esprits, je m'en fiche, je dis ce que je pense.
Merci Thierry Moser, vous dites toujours ce que vous pensez, depuis le temps qu'on se connaît.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.